Chapitre 6. Totem. Zizo, allongé sur le lit à baldaquin de la chambre de la reine, s'ennuyait ferme. Il attendait que le conseil dans la pièce d'à côté se termine. Par la fenêtre des appartements royaux, dans le ciel sans nuages, il apercevait la flèche du tipi, aussi pointue que la pointe d'un stylo sur une feuille bleue. C'était le premier jour des vacances, pile 2 semaines après le birthday. Plus de 2 mois sans cours. Zizo avait une envie folle de prendre la main d'Alix et de filer jusqu'à l'île aux cygnes rejoindre les ados qui organisaient un concours de balles d'autruche dans la Seine. Ils avaient tant attendu ces premiers jours de canicule. Mais avant d'attraper un maillot et de plonger dans l'eau, Alix devait terminer la présidence de ce conseil très important, comme l'étaient tous les conseils d'ailleurs.
C'est elle, la fameuse couronne ?
Zizo sursauta. Il avait dû finir par somnoler, à force de se laisser chauffer par le soleil à travers les fenêtres du château. Il reconnut aussitôt la voix qui venait de le surprendre en pleine sieste, grisante. Zizo sauta sur ses pieds. « Qu'est-ce que tu fais là ?»«
Ce que nous faisons là, toutes les deux.
On se promène.
C'est interdit. »
Elle avança vers un globe de verre posé sur un guéridon, entre le couloir et l'entrée de la chambre, et colla le visage de porcelaine de sa poupée contre la paroi transparente.
« Tu vois, Lali ?»
fit Chrysante.
« Dans cette cloche, cette espèce de petit bouquet de fleurs jaunes fanées, c'est une couronne. La nouvelle couronne de la nouvelle reine. Enfin, nouvelle, c'est toujours la même reine, mais en plus vieille chaque année. On réélit tout le temps la même, puisque de toute façon, elle ne sert à rien, et que c'est Augénor qui décide de tout. Mais si, Lali, tu le connais, Augénor, c'est le garçon tout le temps triste, en fauteuil, avec son chien-chien sur les genoux. »
Zizo essaya de contrôler ses nerfs face à la méchanceté gratuite de Chrysante. Alix avait été réélue triomphalement il y a 10 jours. Il est vrai que personne ne s'était présenté contre elle, et plus de 8 ados sur 10 avaient voté pour elle, glissant son nom dans une urne posée sur l'autel du sanctuaire. Seuls les noms de quelques autres enfants avaient été cités, sans doute pour rire ou pour ne pas faire comme tout le monde. Sabi, 5 fois. Akane, 4 fois. Honora, 3 fois. Le vote avait eu lieu 3 jours avant le banquet. Jeanne d'Arc, 2 fois. Isalis, 1 fois. Un anonyme avait même osé inscrire le nom de Mordelia, un autre, celui de Puggy, mais Augénor n'avait par contre reçu aucune voix. Zizo décida de prendre Chrysante à son propre jeu. Il ne jeta pas un regard à la fille et fixa uniquement le visage cabossé de sa poupée. « Tu vois, Lali, cette couronne fanée dans ce bocal de verre. Cela fait presque 1 an que Philao et son équipe de singes jardiniers la cultivent. Ces fleurs jaunes, ce sont des immortelles des dunes, une fleur qui ne pousse qu'en bord de mer, une fleur qui sent très bon aussi et qui possède de grands pouvoirs de guérison. » Philao en a trouvé un brin dans le jardin du Luxembourg, et il est parvenu, en ramenant du sable au verger, à en faire pousser juste assez pour une couronne. C'est Sabi et Lunella qui l'ont tressée. Notre reine Alix va la poser sur sa tête juste après le conseil. Rien qu'une seconde, parce qu'après, on file tous nager dans le fleuve. Tu sais nager, Lali ? Chrysante, vexée, alla poser Lali dans un siège de velours rouge bien trop grand pour elle. Elle prit ensuite le temps d'admirer le décor princier qu'elle découvrait pour la première fois. Les cheminées de marbre, les moulures d'or au plafond, les lustres de cristal, les miroirs plus hauts qu'elle et l'épaisse moquette rose dans laquelle Lali se serait enfoncée jusqu'aux genoux.
« Tu m'étonnes, » siffla-t-elle, « que cette vieille crâneuse d'Alix veut rester avec sa couronne sur la tête. On est mieux ici que sur un matelas de paille dans le tipi. Et toi aussi ?» Je comprends que t'aies préféré jouer au toutou de la reine et passer les 2 derniers hivers ici. Ça me rassure, c'est pas cette frimeuse que tu aimes au fond. C'est tous ces trucs dorés qui brillent du sol au plafond.
Tu n'as rien à faire ici, Crise.
Ah bon ? C'est interdit ? Tu vas appeler les gardes pour qu'ils nous embarquent à la conciergerie ?
Qu'est-ce que tu veux? Le conseil va bientôt se terminer. » Il observa les immortels tressés dans le bocal. « Je suppose que tu n'es pas venu assister au couronnement. » Chrysante ne prit pas la peine de répondre. Elle s'avança dans la chambre.
« Fais-moi un peu de place, Lali. »
Elle poussa sa poupée et s'assit à côté d'elle dans le fauteuil. Elle fixa Zizo et baissa la voix, telle une espionne préparant un complot.
« Tu te souviens du livre que cherchait Augénor le lendemain du banquet ? Ce livre, trouvé dans le camp de Mordelia, et que m'avait confié Gulo-Gulo ?
Évidemment, celui qui a brûlé et que tu as jeté dans la Seine. » Chrysante se contenta de sourire tout en continuant de scruter chaque détail de la pièce avec une attention particulière pour les objets posés sur les meubles d'acajou ou derrière les vitrines. Elle s'attarda sur les tasses de porcelaine et les théières, les petites cuillères d'argent, les verres à pied de la taille de dés à coudre, une dinette avec laquelle Lali et elle auraient adoré jouer.
« Tu... » continua Zizo. « Tu ne l'as pas jeté dans la Seine, et les pages n'étaient pas brûlées. »
Chrysante fit valser ses 200 sandalettes de toile, comme si elle avait décidé de s'installer pour un long séjour dans les appartements royaux et que le premier luxe princier qu'elle voulait s'offrir était de sentir les longs poils de la moquette rose se glisser entre ses doigts de pied. Le conseil touchait à sa fin. Sur la 50aine de chaises de la grande salle du conseil, seuls 9 étaient occupés par les 6 ministres, accompagnés de la reine, de son conseiller et du secrétaire général de la paix. C'était tout de même presque 2 fois plus que celui mis en place au château pendant des années, composé uniquement des 3 délégués des 3 pavillons, de la reine et de son conseiller. Le conseil n'avait pas rediscuté de l'attaque du camp de Mordelia. L'assaut avait été largement évoqué lors du conseil 15 jours plus tôt, le lendemain du birthday. Jeanne d'Arc s'était contenté de signaler que ses soldats, malgré leur ronde partout dans la ville, n'avaient découvert aucune trace de Mordelia et de Bill. Le conseil s'était également félicité de la réussite du banquet « et de nos discours », avaient ajouté les ministres. Il avait enfin dressé un bilan excessivement positif de l'intégration presque naturelle et sans conflit de tous les moineaux revenus au nid, pris en charge avec doigté et efficacité par des volontaires motivés. Bref, un climat de paix et d'euphorie régnait entre le château et le tipi, encore renforcé par les prévisions météo qui s'annonçaient excellentes pour les mois de vacances. Alix s'apprêtait à clore la séance, pressée de poser sa couronne d'immortel sur sa tête, de rejoindre Zizo et de courir jusqu'au fleuve, quand Augénor demanda à prendre la parole.
« Chers amis, » fit le conseiller, « je crois que le moment est venu de nous donner, à tous, un symbole plus fort. »
Les 8 autres membres du conseil se tournèrent vers lui sans comprendre.
« À quoi penses-tu ? » demanda la reine.
« À quelque chose de très simple, le plus simple possible, mais qui symboliserait nos 2 tribus, ou plutôt notre peuple, puisque nous n'en formons plus qu'un seul. Il faut profiter de ce moment de paix, maintenant que Mordelia ne représente plus aucun danger. Isalis, tu peux nous le confirmer, tous les peuples se sont toujours rassemblés derrière des symboles.
Évidemment, confirma la ministre du temps passé. Tous avaient un drapeau, un hymne et d'autres signes de reconnaissance pour que chacun se sente appartenir à un même groupe. Ce n'était pas toujours très raffiné d'un point de vue artistique ou musical, mais, question efficacité, la méthode a fait ses preuves. Pour se sentir appartenir à un même camp, rien de mieux que de faire agiter des drapeaux par une bande de crétins qui braillent le même refrain.
Quelques ministres toussèrent ou firent ostensiblement grincer leurs chaises.
« Majesté, » protesta Jeanne d'Arc en s'adressant à Alix, « chaque pavillon possède déjà son drapeau. Est-ce vraiment la peine d'en rajouter ?»
Alix était assise au bout de la table du conseil. Comme souvent, elle essaya de réfléchir rapidement pour trouver un compromis entre toutes les sensibilités qui s'exprimaient.
« Jean, les drapeaux des 3 pavillons servent uniquement pour le tournoi de l'étoile. Il ne nous en faudrait qu'un seul, Augénor a raison.
Un symbole de notre réconciliation qui convienne aussi bien au tipi qu'au château. C'est au conseil de le choisir, pour que chacun puisse le peindre, le sculpter, le dessiner. Je pense qu'un animal, qui nous représenterait tous, serait l'idéal. Tout le monde parut approuver l'idée. Agnel, le ministre des Plantes, des Animaux et de la Terre, s'exprimait rarement lors du conseil. Il fut pourtant cette fois le plus rapide à prendre la parole.
« Il faut choisir un oiseau, ça me semble une évidence, et on n'a que l'embarras du choix. Pourquoi pas le plus fort de tous, un aigle ?»
Isalis ricana tout en redressant ses lunettes dorées sur son nez.
« Déjà pris, mon petit. Par Napoléon, certes, mais aussi par les nazis. »
Elle ne fit même pas l'effort d'expliquer qui étaient les nazis, considérant sans doute qu'on ne pouvait pas être ministre et être aussi ignorant.
« Une colombe, alors ?»
proposa Solario, le ministre des Voyages, accourant à la rescousse de son ami.
« C'est le symbole de la paix, n'est-ce pas, Akan ? Et la colombe est aussi symbole du voyage, de la découverte des nouveaux mondes !»«
Bof !»
commenta Liu, le ministre des Inventions.
« On doit pouvoir trouver plus original, non ? On n'est pas obligé de copier le monde d'avant. On ne manque pas d'animaux tout de même, ni d'oiseaux si vous y tenez. »
Un moineau ?
Suggéra Vanille. Il était difficile de deviner si la ministre du jour et de la nuit plaisantait ou si elle était sérieuse. Elle aimait ponctuer ses longues interventions ennuyeuses par des blagues décalées que, en général, Augénor appréciait. Le conseiller sourit alors que Jeanne d'Arc paraissait choqué.
« Pourquoi pas une poule pendant qu'on y est ? »
s'énerva Isalis.
« On peut avancer. Notre reine a une couronne à poser sur sa tête. Et même s'il s'agit d'immortels, ce n'est pas une raison pour y passer la journée. »« Un castor !» proposa Liu. « C'est inventif, un castor. Pacifique, ingénieux. »«
Pas mal, » admit Vanille. « C'est organisé et travailleur, un castor. »
Jeanne d'Arc paraissait dépité.
« Un castor ?» C'est bien cette espèce de gros rat des rivières qui dort la moitié de l'année. Les castors n'hibernent pas,
tenta de rectifier Solario, alors qu'Isalis provoquait un début de fou rire chez Vanille en rongeant son crayon, lèvres retroussées et dents en avant.
Si tu as mieux à proposer, Isa,
répliqua Liu, vexé. Jeanne d'Arc réagit aussitôt pour calmer le jeu.
C'est un peu petit, un castor. Il faudrait trouver un animal plus imposant. On doit tous être fiers de notre symbole, non ?
Le ministre des Punitions rechercha de l'aide dans le regard des autres ministres. Sa remarque lui semblait pleine de bon sens.
Un cheval, essaya-t-il. C'est mieux qu'un castor, non ?
Liu soupira. Apparemment, le savant ne trouvait pas non plus l'idée du cheval très originale.
Et pourquoi pas un taureau ? Lança Jeanne d'Arc. C'est encore plus gros et plus costaud.
Une vache ? Fit Vanille. C'est plus utile.
Isalis leva les yeux au ciel, consterné.
Une vache ! Comme symbole de notre réconciliation, t'es sérieuse ?
On pourrait lui ajouter des ailes,
ajouta Vanille,
pour faire plaisir à Agnel.
La ministre du jour et de la nuit se réfugia derrière un sourire énigmatique. Plaisantait-elle ou non ? Chaque membre du conseil prit un instant pour imaginer des drapeaux flottant sur le château avec une vache ailée.
« J'ai une idée !»
s'empressa d'ajouter Solario.
« Si vous voulez un animal fort et original pour nous représenter, il faut aller le chercher plus loin que dans le verger. »«
Tu penses à quoi ?» interrogea Jeanne d'Arc méfiant.
« Eh bien !» précisa Solario. « Parmi tous les grands mammifères exotiques, on a le choix. Une girafe, un hippopotame... » « Un rhinocéros ?»«
Ou direct, le plus gros, surenchérit Jeanne d'Arc. Un éléphant ?»
Jeanne d'Arc avait l'air convaincu. Solario aussi. Agnel devait se demander ce que donnerait un drapeau d'éléphant avec des ailes. Vanille se chargea de les ramener à la réalité.
« Est-ce que quelqu'un peut juste me rappeler le rapport entre nous et un éléphant ? Un symbole, c'est quand même censé nous représenter. »
Tenta de se défendre Jeanne d'Arc, sans trouver d'argument.
Pourquoi pas un gorille ?
Tous se tournèrent, hilar vers Isalis. L'ex-délégué du pavillon des singes appréciait peu qu'on compare les artistes aux divers chimpanzés, guenons ou autres macaques. Elle en cassa son crayon en deux.
« Enfin quoi » s'énerva-t-elle en fusillant l'assistance de son regard doré. « Ce n'est pas compliqué. Tous les rois et tous les empereurs au cours de l'histoire ont trouvé un animal fétiche sans se prendre la tête. Je ne sais pas, moi, la chouette, la salamandre, le crocodile, le panda, l'ours. »«
Et c'était quoi ?» demanda naïvement Vanille. « Le symbole d'ici ?» De Paris et des alentours, je veux dire.
Ah, le coq !
Répondit Isalis, comme si c'était une évidence. Tous les membres, à l'exception d'Agnel, toujours séduit par ce qui portait des ailes, se regardèrent, stupéfaits. Alix avait décidé de ne pas prendre part à la conversation. Augénor et Akane aussi, apparemment, laissant les ministres débattre entre eux. La reine s'amusait beaucoup. Même si elle était pressée de coiffer sa nouvelle couronne et hop, d'enfiler son maillot et direction le fleuve avec Zizo.
Un coq ?
Répéta Vanille, incrédule.
Et les adultes d'avant le passage du nuage avaient choisi cette volaille prétentieuse à peine mangeable comme emblème. On doit quand même pouvoir trouver mieux qu'eux, non ?
Un lion ?
Suggéra avec conviction Jean d'Arc. Tous, même à Cannes, firent comme s'ils n'avaient pas entendu.
Il faut un animal original, utile et qui vit ici,
insista Vanille. Tout le monde l'approuva.
Un insecte,
fit Vanille en sautant sur sa chaise.
Un insecte, bien sûr. Un insecte infatigable, travailleur, obéissant, une fourmi.
Une fourmi sur un drapeau,
commenta Isalis.
Pourquoi pas des crottes de mouche ?
Une abeille ? Proposa Liu.
Une abeille, c'est !
Trop petit, termina Jean d'Arc, agitant son beau de chêne.
Un papillon,
suggéra Agnel.
Parfait, un papillon, confirma aussitôt Solario. C'est joli et c'est...
Totalement inutile,
acheva Vanille. On tournait en rond. Pour la première fois, Alix décida d'intervenir.
Je pense qu'on devrait se concentrer sur des animaux que l'on connaît tous. Des animaux à la fois forts et pacifiques, utiles et intelligents. Ça doit tout de même pouvoir se trouver autour de nous, dans la forêt.
Son regard se tourna vers Agnel et Solario, qui avaient exploré la forêt pendant plusieurs mois l'année précédente.
Un loup ?
Avança timidement Solario en pensant à leur ami Lupo Nero.
Pacifique, on a dit, commenta Isalis.
Un lapin ?
Ah, super fort, les lapins,
ricana Jean d'Arc.
Un sanglier.
De vrais génies, les sangliers, fit Liu.
C'est clair qu'ils ont tout inventé.
Un bref silence s'installa autour de la salle du conseil. Augénor toussa. Tous se retournèrent vers lui.
Un animal noble,
fit-il en agitant la main, que l'on a tous croisé en forêt, beau et respecté, à la fois libre et fidèle à sa tribu, fort et puissant, simple à dessiner, immédiatement reconnaissable. Il marqua une pause, baissant son bras pour apaiser le chiot sur ses genoux. Je propose que les drapeaux de nos deux tribus, que les étages du tipi, que les tours du château, que nos vêtements de cérémonie, que les voiles de nos bateaux qui partiront explorer pour nous le monde, que nos portes et nos boucliers, portent tous cette figure. Il retourna la feuille qu'il avait griffonnée en secret, à moins qu'il ne soit venu avec le dessin, certain dès le début que son unique proposition l'emporterait. Dessus était dessinée une magnifique tête de cerf, dont les cornes ressemblaient à une couronne de bois mêlé. Chrysante enfonçait avec précaution ses pieds nus dans l'épaisse moquette rose de la chambre de la reine, aussi méfiante que si elle progressait dans un marécage infesté de reptiles. « Tu n'as pas jeté ce livre à la Seine ?» demanda à nouveau Zizo.
« Ça fait tout drôle, »
commentait Chrysante.
« C'est à la fois chaud et doux, et en même temps ça chatouille un peu, comme du duvet de poussin. Ah, c'est comme si on marchait sur un tapis de plumes. « Viens, Lali, il faut à tout prix que tu essayes ça !»
Elle se pencha pour retirer les chaussures miniatures de sa poupée, taillée dans une écorce de chêne liège.
J'en étais sûr, insista Zizo.
Tu l'as alors, le troisième livre de Mordelia.
Chrysante, pliée en deux, faisait marcher Lali sur la moquette. Les poils roses grimpaient jusqu'au mollet de la poupée.
Arrête ton cinéma, Chrys, et réponds-moi. Alors, tu l'as lu? Il parle de quoi, ce troisième livre?
Quand on sera retourné au tipi,
continua d'expliquer Chrysante à sa poupée,
je te fabriquerai une moquette pour ta chambre avec de la mousse des bois.
Tu verras, tu y seras encore mieux qu'une reine.
Zizo s'était avancé d'un pas. Il haussa le ton pour que la fille finisse par lui répondre.
Je résume. Le premier était son livre de médecine. Le deuxième, un roman racontant une guerre, l'Iliade. Et le troisième alors, c'est lui qui l'a rendu cinglé?
Allez, on remet tes deux petites chaussures, ma chérie.
Zizo était habitué à ce que Chrysante parle à sa poupée, et la plupart du temps, ça l'amusait. Pourtant, ce matin-là, pour la première fois depuis qu'il la connaissait, il ne put résister au désir brutal de les séparer. Il prit Lali des mains de Chrysante.
« Allez hop, viens avec moi, Lali. Faut que je parle à ta mère. » Chrysante hurla.
« T'es malade ou quoi ?»«
Ne t'inquiète pas, Lali, maman est un peu énervée, ne l'écoute pas. On doit avoir une conversation entre grands. »
Rends-moi Lali!
Alors, tu l'as lu? Il y a quoi dans ce livre?
Chrysante tenta de se jeter sur Zizo, mais celui-ci, plus rapide, fit trois pas, sauta sur le lit à baldaquin, puis en descendit dès que Chrysante l'escalada. Il conservait toujours 5 mètres d'avance sur elle.
C'est pas marrant, Zizo! Tu vas la rendre folle! Elle ne connaît que mes bras!
Zizo pressa la poupée contre son cœur.
N'aie pas peur, Lali. Maman crie un peu fort, mais c'est pour rire. On est de vieux amis.
Il se tourna vers Chrysante.
Abrège, dans ce cas, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Me parler de ce livre? Je t'écoute, dis-moi.
Pas ici!
Chrysante s'arrêta devant la cloche de verre protégeant la couronne d'immortels.
Pourquoi t'es venu alors?
Pour te donner rendez-vous. Je savais qu'il y avait conseillé que tu serais seule. Et puis je voulais visiter aussi.
Elle continua de marcher, s'arrêtant devant les bibelots posés sur les étagères, déplaçant les statuettes, les bougeoirs, les lampes. Zizo ne se laissa pas prendre par sa manœuvre grossière pour se rapprocher et s'éloigna avec prudence.
« Mais donnez rendez-vous, où ?»«
Devant l'ange démon volant. »«
Où ça ?»«
L'ange démon volant. » Tu demanderas à Agnel, il est imbattable sur tout ce qui vole. Quand tu auras trouvé, tu poseras une rose rouge devant l'ange démon et je te rejoindrai le lendemain, à minuit pile.
Tu ne peux pas faire les choses plus simplement.
J'ai besoin de prendre mes précautions. Augénor se méfie de moi. Tu comprendras quand tu sauras. Prends-moi Lali maintenant, elle est fragile.
Zizo regarda un long moment Chrysante. Disait-elle la vérité? Avait-elle lu dans ce livre de Mordelia un secret qu'Augénor voulait récupérer à n'importe quel prix? Était-elle vraiment en danger? Ou bien inventait-elle tout cela pour se rendre intéressante, pour qu'il passe du temps avec elle? Et que signifiait cet ange démon volant? Et surtout, que fichait Alix? Le conseil aurait dû être terminé depuis longtemps. Il serra plus fort encore la poupée contre son cœur, sans cesser de fixer Chrysante.
« Je crois que tu protèges trop Lali, » répondit-il enfin, « et qu'en réalité, elle est amoureuse de moi. »
Il arrêta son regard sur la couronne d'immortel dans le bocal de verre, éclata d'un grand rire et sans prévenir bondit par-dessus le fauteuil. Il atterrit avec souplesse sur la moquette, se redressa et se mit à courir en riant dans les couloirs déserts. Chrysante le poursuivit, mi-amusée, mi-paniquée.
« Tu n'as pas le droit ! Rends-la-moi ! »
Avec une unanimité déconcertante, le conseil vota pour le cerf comme symbole du château et du tipi réunis. Choisir cet animal apparaissait comme une sorte d'évidence, même si dans les faits, Il était plutôt rare d'en croiser un dans la forêt. Agnelle et Solario avaient voté pour, pensant que Lupo Nero serait content de ce choix. Jean d'Arc aimait la force des bois qu'il portait sur la tête. Hakan et Vanille appréciaient sa sagesse de chef de troupeau, et Isalis admirait sa beauté classique. Elle avait même déjà pensé à récupérer dans les débarras poussiéreux du pavillon des singes une collection de tapisseries médiévales qui représentaient de superbes paysages de sous-bois. Alix allait entériner le choix du conseil et laisser à ses ministres le soin d'imaginer les mille et une façons d'accommoder le cerf. Elle ouvrit la bouche pour conclure enfin le conseil quand Augénor demanda une nouvelle fois la parole. La reine se mordit les lèvres. Il allait finir par faire nuit avant qu'elle soit sortie.
Oui, Augénor ?
Avant que nous nous quittions, Majesté, Monsieur le secrétaire, cher ministre, je dois vous informer d'une découverte importante. Tous les membres du conseil se turent immédiatement. Augénor, sans oublier aucun détail, raconta le témoignage de Pépin, puis l'interrogatoire de Chrysante, et enfin celui de Gulot-Gulot dans le salon des sept cheminées. Il conclut d'une voix grave « J'ai demandé à Valère, le meilleur historien du château, de travailler avec une équipe de savants spécialistes des hiéroglyphes pour percer le mystère du cartouche tracé sur la couverture de ce livre. Même si Valère est plus prudent que moi, je... » Augénor, d'ordinaire si froid et sûr de lui, avait l'air sincèrement troublé. « Je suis persuadé que ce message codé nous parle de Marie-Lune et que... » Il paraissait même avoir du mal à trouver ses mots. « Qu'il nous indique l'emplacement de son tombeau. » Un long silence ponctua cette dernière information. Personne n'ignorait que trouver la tombe de Marie-Lune était l'obsession d'Augénor. Tous ceux du château, même s'ils y attachaient moins d'importance, restaient eux aussi profondément attachés à Marie-Lune. Elle était l'unique figure maternelle dont ils aient le souvenir. Quant à ceux du tipi, ils avaient depuis un an, pendant les cours, suivi tant de vidéos réalisées par Marie-Lune qu'ils avaient l'impression de la connaître aussi. Elle était la seule adulte dont ils connaissaient la voix, les sourires et le regard bienveillant posé sur eux. Alix observa avec envie le ciel bleu par la fenêtre. Toutes les lucarnes des toits de Paris brillaient sous l'éclat des rayons du soleil, scintillant davantage qu'un ciel d'été étoilé. Ils étaient enfermés dans la salle du conseil depuis plus de 2 heures.
« Allez, tous dehors !»
cria-t-elle avec autorité.
« Je vous demande seulement 5 secondes pour mettre ma couronne sur ma... »
Un bruit de verre cassé explosa à travers la pièce à ce moment précis. Les 9 membres du conseil se précipitèrent vers la porte et l'ouvrirent à la volée. Ils se retrouvèrent devant Zizo et Chrysante, qui arrivaient du bout du couloir en sens inverse, tout aussi essoufflés, les yeux exorbités. Au milieu des éclats brisés, il ne restait que des feuilles et quelques boules jaunes d'immortels séchés. La couronne avait disparu. Les membres du conseil devaient se rendre à l'évidence. Quelqu'un avait réussi à pénétrer dans les appartements de la reine pour la voler.